De deux choses l'une, ou tu fais exactement ce que te demande Monsieur René, ou tu changes de crèmerie. Oh.
Au moins c'est clair ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de taxi, de prison, de caméra, de docu-fiction, d'os et même de marin-marais. Avec Brigitte Sy qui signe l'Astragale, adaptation du roman autobiographique d'Albertine Sarrazin, noir et blanc cinématographique, étirement des scènes pour un film physique qui évite les écueils du film à costume. Benoît Lagan.
L'occasion de revenir sur le parcours d'une réalisatrice qui signe un très beau film de l'évasion pour une artiste toujours marquée par l'univers carcéral.
19h30, place nette à Xavier Delaporte et son grand retour pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir au programme, Xavier,
David Vincent.
Les envahisseurs.
Exactement.
Celui-là même.
Exactement. Bien. Je pensais que vous ne pas connaître.
Mais vous êtes fou ou quoi?
C'est sa génération.
Oh.
C'est gentil.
Deux fois. Deux coups de poignard. 19h35, plateau clandestin avec Pouya Abassian à l'occasion de la sortie de Taxi Téhéran, le film de Jafar Panahi, Émilie Chaudet.
Un road movie à ciel ouvert et en bande organisée ou le nouvel exploit artistique d'un cinéma iranien qui se rêve libre.
Il va falloir vous trouver une autre chaise parce que vous êtes toute petite.
Je vais me rehausser dans quelques instants.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfès que l'on ouvre avec le son du jour.
Une sélection, c'est, je pourrais citer presque... le discours de la garde Perpignan de Salvador Dali qui disait en substance « Quand je commence un tableau, je pense que ça va être le plus beau tableau jamais peint dans l'histoire de l'humanité et à la fin, je fais comme je peux pour finir. » Nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire, chaque année, on pense qu'en effet, ça va être la plus belle sélection et à la fin, on veut surtout être là devant vous à vous présenter une sélection. Mais elle est belle, elle est nouvelle, elle formule des hypothèses, elle prend des risques. Et elle dit des choses sur l'état de la création mondiale en matière de cinéma.
Elle est un peu comme vous, en fait.
Elle est exactement.
Elle est belle, elle
moi.
Prend des risques, elle dit un peu.
J'adore
tout sur la création.
Comme vous me parlez comme ça, Laurent Chaumont.
Bonsoir, Zoé Sfès.
Bonsoir, Laurent.
Même mon nom vous a échappé.
Mais presque.
Mais aujourd'hui,
vous voyez.
C'est ma fête.
Alors voilà, parce que c'était pas vous qui parliez, non, effectivement, c'était Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, qui a dévoilé Poulum Poumchi, la grande liste, alors première liste des films en compétition officielle cette année. Donc en 2015, il se réserve le droit d'en rajouter 2 à 4 d'ici la fin de la semaine prochaine. Alors dans la catégorie des habitués, on retrouve les Italiens Nanni Moretti, Matteo Garrone et Paolo Sorrentino. On a aussi des Français qui reviennent avec Valérie Donzelli, Mai Wen, mais aussi Stéphane Brisé et Monsieur Jacques Audiard. On a aussi deux grands retours de deux cinéastes qui n'étaient pas venus à Cannes depuis longtemps, notamment Gus Van Sant et le chinois Hu Xiaoxian, que j'espère toujours dire bien, absent depuis presque une décennie, qui revient avec The Assassin, film d'arts martiaux dont la production s'est étendue sur plusieurs années.
Merci Zoé pour toutes ces informations. Tout de suite, le dossier du jour qui concerne ce soir la réforme des conservatoires de Paris.
Oui, alors parce qu'on a eu la semaine dernière une information, on va dire symboliquement forte, qui est que la mairie a annoncé que désormais, les gens qui seraient inscrits au conservatoire seraient tirés au sort à partir, pour une partie des conservatoires, de cette rentrée 2015. Avant, on faisait la queue ou alors on appelait une centrale d'appel, car, et ça tout le monde est d'accord pour le dire, aussi bien les parents que les professeurs que les politiques, il manque cruellement des places en conservatoire à Paris, puisqu'il y en a 20 000 en tout, 3 000 seulement qui se libèrent chaque année, et qu'il y a au moins 4 voire 5 fois plus de demandes. Alors voilà, Bruno Julliard, premier adjoint au maire et adjoint à la culture donc de la mairie de Paris, annonce qu'il va créer deux conservatoires supplémentaires d'ici l'année prochaine, et donc créer 3 000 places en plus, mais il en profite aussi pour mener une réforme plus large des conservatoires et s'attaquer à, selon lui, deux problèmes structurels, le manque de mixité sociale dans les conservatoires et le taux très important d'abandon. Écoutez-le.
Nous pensons que il y a deux objectifs qu'il faut poursuivre. D'abord, il faut lutter contre l'échec. C'est aussi une réalité qu'il y a trop d'abandon en cours de cursus. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il y a notamment le fait que ce sont souvent les familles qui ont inscrit les enfants dans les conservatoires. Et donc, lorsque l'enfant ou le jeune parisien est en âge d'avoir ses propres goûts, ses propres envies, eh bien, c'est pas forcément un apprentissage de la musique dans les conservatoires qu'il a envie de poursuivre. Il faut trouver des innovations pédagogiques qui permettent l'émancipation des enfants et le développement du goût individuel, autonome. Ensuite, nous sommes convaincus qu'en modernisant modernisant le contenu pédagogique et les méthodes de transmission, nous pouvons toucher de nouveaux publics qui sont aujourd'hui plus éloignés d'une offre assez traditionnelle, tout en conservant la même qualité.
Mais tout le monde n'est pas d'accord, Zoé.
Effectivement, non, en effet, certains parents, il faut le dire, qui ont peur que l'exigence faiblisse, mais aussi certains professeurs de conservatoire qui craignent que cette réforme soit synonyme de mise à mort totale du système pédagogique tel qu'il existe. C'est le cas notamment de Gérard Grandvert. Il est musicien, musicologue, essayiste, professeur au conservatoire du 18e arrondissement de Paris. Il a notamment publié L'enseignement de la musique en France aux éditions de l'Harmattan. Écoutez-le.
La réforme a deux niveaux. Elle doit être d'ordre administratif éventuellement, c'est ce qui est proposé par la ville, et là, tous les politiques et leurs collaborateurs sont tout à fait compétents dans ce domaine. Mais il y a un deuxième niveau d'intervention qui est une réforme pédagogique, et pour cela, les politiques et leurs collaborateurs n'ont absolument aucune compétence, sauf s'ils font appel, évidemment, aux acteurs de terrain qui pourront éventuellement les aider et leur éviter de dire n'importe quoi. Dans le projet de réforme qui va nous être asséné concerne véritablement une organisation pédagogique renouvelée, c'est-à-dire qu'en deux mots, on supprimerait le solfège et on ferait en sorte de bourrer, si je passe l'expression, les premières années d'enseignement individualisé de type instrumental en prenant plusieurs élèves dans la même heure, ce qui permettra à la ville évidemment d'annoncer qu'elle ouvre des places au détriment de l'exigence et de la qualité pédagogique, bien sûr.
Bruno Junior, lui, affirme qu'il s'appuie sur les directeurs de conservatoire.
Oui, donc effectivement, il s'appuie sur une expertise interne. Il les réunit quasiment chaque semaine depuis plusieurs mois. Il reconnaît lui-même d'ailleurs qu'il avait déjà tenté ce type de réforme il y a 3 ans, mais qu'il s'était peut-être imposé de manière trop verticale. Là, il assume clairement une réforme, mais conduite de manière nuancée. Écoutez-le.
Nous ne considérons pas qu'il faut supprimer le solfège dans l'apprentissage, qui est toujours un apprentissage exigeant dans les conservatoires et qui doit le demeurer. En revanche, nous pensons que lorsque certains enfants ont découvert la musique d'abord par la pratique, soit d'une chorale, soit d'un éveil musical avec plusieurs instruments à l'école par exemple, nous pensons qu'il faut des passerelles adaptées pour ces enfants-là et que donc les cours de solfège ou même d'ailleurs les cours individuels avec des enseignants qui sont là les moments les plus exigeants, il faut les maintenir, mais il faut les adapter aux envies et aux besoins des enfants pour ne pas faire fuir un certain nombre de publics.
Voilà, une partie de ces mesures vont être expérimentées dans l'année qui vient avant peut-être d'être élargies au cours de la rentrée 2016, mais évidemment il faudra pour tout cela être validé, il faudra que tout cela soit validé par le fameux Conseil de Paris.
Brigitte, je vous ai vu très attentive et assez surprise par cette annonce de tirage au sort, en fait.
Bah, tirage au sort, c'est assez horrible. L'idée du tirage au sort, on a de la chance ou on n'en a pas, c'est terrible. Alors effectivement, peut-être avant, c'était...
C'était les premiers arrivés, les premiers servis.
Mais enfin, au moins, on se donne la chance d'être le premier arrivé. Ouais. On maîtrise un peu quelque chose quand on se lève là à 5h et qu'on fait la queue voilà, pour s'inscrire. Mais mes enfants, eux, ont été au conservatoire d'arrondissement pour le théâtre et là, on passait un
Louis
concours.
Louis Garrel et Esther.
Oui, et là, ils ont passé un concours et puis ils sont entrés dans le conservatoire. Donc c'est pas la même chose pour la musique, apparemment. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne pour la musique et pour le théâtre.
C'est un peu plus compliqué pour la musique, puisque c'est là qu'il y a le plus de demandes. Et c'est là qu'avant le tirage au sort, le fameux symbole, c'était la tente Quechua, puisqu'il fallait dormir sur place pour être sûr de pouvoir s'inscrire.
On passe tout de suite au bref, Zoé, la
première. Et on ouvre avec Facebook qui est inquiet sur TF1, car... TF1, c'est l'inverse. C'est TF1 qui est très inquiet de Facebook. Et oui, car vous le savez, Facebook désormais a ouvert une application qui permet d'avoir beaucoup de contenu vidéo et sans système de filtrage, ce qui inquiète beaucoup TF1, puisque TF1 s'est engagé pendant des années dans une grande bataille avec YouTube, Dailymotion, etc. pour être sûr que son contenu ne soit pas diffusé sans son accord. Après des années de procédure, eh bien, ils ont un nouvel ennemi qu'il va falloir combattre.
Deuxième brève.
La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a lancé les assises de la jeune création, et oui, qui déboucheront fin juin sur un paquet de mesures pour mieux accompagner les jeunes créateurs dans leur travail quotidien. 6 groupes de travail sont tous représentés par des jeunes artistes, avec notamment la chorégraphe et danseuse hip-hop Anne Nguyen ou encore la réalisatrice Katel Kiveret, qui doivent faire émerger des solutions dans les domaines de la diversité, de la formation et de l'insertion.
La dernière.
La dernière, c'est une histoire qui fera plaisir à ma sœur. Et oui, je lui fais une spéciale dédicace, mais pas qu'à elle.
Généralement, c'est Benoît Lagane qui ne s'adresse qu'à sa famille.
Mais non, mais je m'adresse aussi à Benoît Lagane. Je m'adresse à tous les fans des Beatles, ce qui fait que je m'adresse quand même à une grande partie de la planète, on peut le dire. Et oui, car si je vous dis Beatles, vous dites quoi ? Vous dites un peu Abbey Road quand même. Ça arrive.
Enfin, on peut dire plein de choses.
Oui, on peut dire plein de choses.
Je pense à une coupe de cheveux, mais bon, c'est...
Oui, on peut penser à plein de choses, effectivement. Mais le fait est que les fameux studios Abbey Road, qui n'ont accueilli pas que les Beatles, d'ailleurs, les Pink Floyd, Kate Bush, Radiohead ou encore Oasis.
Donc ça, c'est une digression totale.
Eh bien, ces studios-là, vous n'avez jamais pu rentrer dedans, nous non plus. Il y a toujours des fans qui restent assis devant. Ça a été toujours la grande frustration. On les a découverts par des vidéos, par des captations. C'est un endroit mythique. Et aujourd'hui, il est possible de pousser les portes.
En étant tiré au sort.
Eh ben non. En étant tiré au sort d'Internet, on peut faire des visites virtuelles de Abbey Road. Donc voilà, avec un site qui s'appelle Inside Abbey Road, on peut découvrir en détail les différents studios avec des images d'archives qui un peu s'incrustent. C'est-à-dire que vous voyez les images de George Harrison dans l'image d'aujourd'hui, etc. C'est extrêmement sympathique. Et puis finalement, voilà, c'est juste une bonne nouvelle et ça valait le coup de la donner.
Elle s'appelle comment, votre sœur ?
Ma sœur s'appelle Lou et on la salue bien bas.
Oh, Lou, c'était spécial pour toi. C'est un peu BFM, non ? Ou RFM, je ne sais pas comment ça s'appelle.
C'est un peu Macha Meryl.
Oui, c'est top. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Brigitte Si et Pouya Bassian ?
Sur les Beatles ?
Bon, ce que vous voulez, franchement, là.
Non, moi, tout va bien.
Très bien.
Bah, sur le Beatles, non.
Eh bien, alors, on y va. Non, c'était vraiment juste pour sa sœur.
Le rendez-vous.
C'est sur cette chanson de Lynn Monti qu'on ouvre votre plateau Caval, Brigitte Si, actrice, réalisatrice. Vous êtes une des figures du cinéma de Philippe Garrel depuis les ministères de l'art en 88, mais aussi des films de Cédric Kahn. Et votre deuxième long métrage, L'Astragale, est en salle depuis la semaine dernière. C'est l'adaptation du roman autobiographique d'Albertine Sarrazin. Alors je resitue l'histoire en quelques mots. Nous sommes en 1957. Albertine, qui est jouée par Leila Bekhti, s'évade de la prison où elle est enfermée suite à un hold-up qui a mal tourné. Elle saute le mur, elle se casse l'os du pied. La fameuse Astragale. Et là, elle rencontre Julien, un malfrat qui va changer sa vie. Il l'emmène à Paris et il la cache chez une amie. Elle va devoir se prostituer pour survivre et vivre dans l'attente de retrouver Julien qui partage sa vie de bandit entre la province et Paris. Je sais que c'est un projet que vous portiez depuis longtemps puisqu'on a pu le lire dans les entretiens. Vous dites même dans la note d'intention que vous aviez lu le livre très jeune. Quelles images il avait réveillé déjà à l'époque ou il avait initié à l'époque quand vous l'aviez lu ?
Je l'avais lu, oui, entre 20 et 25 ans, à peu près. Je l'avais lu tard par rapport à ma génération. Il était étudié dans les écoles à une époque. Et voilà, moi je suis pas une grande lectrice. Il y a peu de livres qui m'ont marqué dans la vie, mais enfin celui-là en fait partie des quelques livres qui m'ont vraiment marqué beaucoup. Sans doute parce que j'avais l'impression de me lire, comme on dit souvent quand on se lit soi-même au travers de quelqu'un d'autre. Donc ce livre m'avait marqué, comme ça arrive des fois. Et puis je l'avais rangé dans la bibliothèque. Et puis ensuite, voilà, je l'ai oublié. J'avais lu La Cavale aussi, que j'avais beaucoup aimé. La Traversière, elle n'a écrit que 3 livres, ouais. Albertine Sarrazin. Et puis j'ai repensé à cette histoire pendant que j'écrivais mon premier film. Et c'était difficile aussi, ça a mis du temps aussi à se faire ce premier film. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, si je n'arrive pas à faire ce film ? Et j'ai repensé à l'Astragale. Et sans doute, j'ai repensé à l'Astragale parce que j'ai beaucoup travaillé, en effet, en milieu carcéral. Alors, évidemment, j'ai relu le livre à ce moment-là, à l'aune de toutes ces expériences. Et bien, évidemment, là, je l'ai lu complètement différemment. Donc voilà, en gros, c'est le trajet.
On écoute tout de suite la bande-annonce.
Albertine Damien, née à Alger en 1937. Votre conduite a contraint vos parents adoptifs à vous placer au Bon Pasteur, une maison de correction de Marseille. Et c'est là que vous rencontrez votre complice, Marie Lefebvre. Vous allez bénéficier de longues années en prison pour y réfléchir, mademoiselle.
C'est... T'inquiète.
C'est qui alors ?
Et moi, je vais où ?
C'est truffé de flics partout, tu vas jamais t'en sortir. Ouais, c'est vrai qu'avec ton art de suédoise, on est tranquille.
C'est combien ?
Combien quoi ?
Combien tu prends ?
Alors, de deux choses l'une, ou tu fais exactement ce que te demande Monsieur René, ou tu changes de crème.
Anne-Marie ! Je t'aime ! Je t'aime !
Marie, j'ai rencontré quelqu'un. C'est grâce à lui que je m'en suis sortie. Les plantes, l'hôpital, c'est lui tout ça.
Mais moi, je t'aime plus que lui. Regarde, il m'a fallu à peine 3 jours pour te retrouver.
Oh là là !
J'ai à mon actif toutes les vacheries, toutes les débauches. Je jouais ma dernière chance sur l'amour. Je veux croire jusqu'au bout.
Brigitte, si vous avez su que le rôle d'Albertine Sarrazin serait pour Leila Bekti, après avoir entendu la voix de la chanteuse judéo-arabe Lina Monti, hein, qu'on entendait tout à l'heure en ouverture du plateau, puis qu'on entend aussi dans le film, quel lien entre les deux ? Pourquoi elle, à partir de cette voix-là ?
Ah ben ça, c'est inexplicable. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis dans mon lit un matin, j'écoute Lina Monti que je découvre, parce que je ne la connaissais pas, Lina Monti. Ça, c'est les bienfaits d'Internet, hein, parce que j'ai voyagé de chanteuse en chanteur en musique, et puis j'ai découvert Lina Monti. J'écoute Lina Monti, je cherchais l'actrice du rôle. Et dans un premier temps, je pensais qu'il fallait que je trouve peut-être une actrice qui avait l'âge du rôle, c'est-à-dire 19-20 ans. Et ça, je ne trouvais pas du tout... Et puis j'écoute Lina Monti et d'un seul coup l'image de Leïla m'apparaît et je me dis mais bon sang, mais c'est évident que c'est Leïla. Alors bien sûr Leïla est d'origine algérienne, enfin elle est française évidemment, mais ses parents sont algériens. Donc
vous l'aviez déjà rencontrée, hein, vous aviez joué avec
oui,
elle
on avait joué ensemble
sur le
dans
film de Cédric Kahn et puis ensuite avec Cédric Kahn dans Une vie meilleure.
Oui, mais ça c'est après, je lui ai proposé le rôle avant de jouer avec elle dans Une vie meilleure. Et le chant de Lina Monti, mais je veux dire, c'est pas, bien sûr, c'est le fait qu'elle chante en arabe, mais si vous voulez, c'est son chant, sa profondeur, sa beauté, d'un seul coup, m'a ramené au visage de Leïla.
L'Astragale avait été adapté au cinéma avec Marlène Jobert en 68, c'était par Guy Cassaril. Pour quelle raison vous ne souhaitiez pas que Leïla Bekti regarde ce film-là? Avant de tourner le vôtre.
C'était pas une interdiction absolue. Je lui ai déconseillé de le regarder, mais pas parce que ça l'aurait entraîné sur une mauvaise pente ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Elle est assez forte et assez indépendante et autonome pour voilà. Mais c'est parce que le film est pas formidable et que et franchement, la bonne idée du film, c'était Marlène Jobert. Bon, après, la mise en scène est très poussiéreuse, très fatigante. Il est fatigant à regarder ce film parce qu'on tourne les pages du bouquin, quoi. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était pas la peine d'aller court-circuiter son esprit avec des images, une imagerie du livre qui était pas la meilleure. Voilà.
Vous lui avez fait découvrir d'autres choses? Vous lui avez demandé de regarder d'autres films, de lire le livre, de travailler à partir de quoi?
Bien sûr, elle a lu le livre, elle a lu les lettres à Julien. Et surtout, on a beaucoup regardé les interviews d'Albertine Sarrazin au moment de la sortie du bouquin, donc les archives de Lina. Ça, El Kabach l'avait enregistré, l'avait interviewé aussi, donc on avait écouté les longues interviews réalisées par El Kabach à l'époque, et voilà, elle s'est imprégnée vraiment du personnage au travers des écrits, beaucoup au travers des écrits, de la vision du personnage, même si elle était extrêmement timide à l'image, Albertine, elle était beaucoup plus, violente que ça dans la vie, que ce qu'elle n'apparaît. Mais voilà, ça a été une imprégnation au travers de moi aussi, ce que je lui disais, voilà.
Alors il y a un autre film qui, d'une certaine façon, est à l'origine du vôtre, c'est Une simple histoire, un film de 1957 que vous avez beaucoup regardé pour travailler notamment les cadres et les lumières de votre film. Vous l'avez regardé, vous l'avez montré à votre chef opérateur. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film, justement, pour qu'il vous inspire ?
D'abord, quand j'ai découvert le film, c'était très frappant. Je me disais, mais les cadres, on dirait que c'est cela que j'ai imaginé. Hein, loin de nous, l'idée de recopier le film de Marcel Hanoud. Mais j'avais l'impression de voir des plans de mon film. Et ce qui était formidable avec ce film, c'est qu'il a été tourné en 1957, ce film-là. Et on aurait dit qu'il avait été tourné aujourd'hui parce qu'il n'avait pas besoin de prouver qu'il avait été tourné en 57. Or, nous, on avait ce problème-là. C'était comment faire comprendre, croire surtout, qu'on est en 1957, sans passer par une reconstitution historique. C'est ce qu'on cherchait à éviter à tout prix.
Alors justement, comment vous avez contourné la reconstitution historique au regard de ce film de 57.
Justement, en cadrant comme on avait envie de le faire, et non pas tel qu'on pouvait s'imaginer que si on montrait ça et ça et ça, ça permettrait de croire que le spectateur croit bien qu'on était en 57. On a cadré comme on voulait. Et au fond, je dirais que ce qui donne l'idée de 57, au fond, j'ai l'impression que c'est l'atmosphère. Et l'atmosphère, elle arrive aussi par le contexte de la guerre d'Algérie. Donc j'ai l'impression que le Paris de cette époque-là, c'est aussi un Paris qui est en pleine guerre d'Algérie, en Algérie, pas à Paris. C'est les premiers attentats en 57. Et voilà. Et la musique judéo-arabe. Et voilà. Et bon, puis après, c'est le noir et blanc. Alors c'est le noir et blanc du cinéma des années 50. Donc d'une certaine façon, on rentre dans le contexte des années 50 par le cinéma, par la guerre d'Algérie, voilà.
Plus que par la reconstitution. Pour préparer ce film, vous avez rencontré des personnes qui ont été liées au personnage, et en particulier Arlette Potou, c'est la seconde femme de Julien. Qu'est-ce que cela a apporté, puisque vous y êtes allé avec Reda Kateb, qu'est-ce que cela a apporté à Reda Kateb de rencontrer la deuxième femme de Julien, vu qu'elle est interprétée donc le rôle de Julien?
Là encore, c'est une affaire d'imprégnation, c'est-à-dire que d'être sur le terrain même où Albertine a séjourné, de lire ses lettres, de les tenir dans les mains, de voir toutes les photographies, parce qu'il y a plein de photos qui ne sont pas éditées, qu'on n'avait jamais vues. Moi, j'avais découvert des visages d'Albertine que je ne connaissais pas. De toucher ces choses, les choses même que Julien lui avait fabriquées en prison, il lui avait fait des bijoux. On était avec eux, physiquement avec eux. Et puis Arlette, elle nous a beaucoup parlé aussi de Julien. Alors, elle nous a parlé de Julien, lui parlant d'Albertine. Donc, on a eu comme ça des informations.
Quel type d'informations, par exemple, que vous n'aviez pas auparavant?
Par exemple, moi, je n'imaginais pas à quel point Albertine était très très difficile à vivre. Alors on le sent parfois dans certaines lettres quand elle lui dit je suis pas super avec toi, en gros, hein, c'est ça. Mais bon, elle nous a donné des détails de leur vie, et voilà, et de Julien surtout. C'est surtout de Julien dont elle nous a parlé. Ce qui était très beau, c'est que, en effet, je le dis dans le dossier de presse, quand on a quitté Arlette, elle a regardé Reda et elle lui a dit au revoir Julien. Et parce qu'il y a une ressemblance inouïe entre les deux, physique. C'est une espèce de chose, si on n'est pas croyant, on le devient.
Vous êtes vous-même comédienne, hein, je le disais, oui, bien sûr, des films de Philippe Garrel, oui, et puis aussi, bien sûr, chez
Yann Echappé.
Exactement.
Ouais.
Est-ce que vous travaillez aussi comme cela pour préparer vos rôles, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens qui ont pu être en rapport avec les personnages que vous incarnez, ou alors préparer d'une certaine façon? Vous avez des techniques de préparation vous-même, Brigitte?
Moi, j'en ai aucune, parce que moi, les rôles qu'on me propose sont quand même pas des rôles qui demandent une macération très importante. Et le seul rôle vraiment important que j'ai joué, c'est avec Philippe Garrel, et on racontait notre vie. Donc il n'y avait pas besoin de s'imprégner. Donc non, moi, on me demande de jouer des situations plus que des personnages.
Et sur un plateau de tournage, vous êtes où comme réalisatrice? Sur le plateau avec les comédiens ou derrière le combo?
Je suis avec eux avant de tourner, et puis après je suis sur le combo, parce que moi ça m'intéresse de savoir dans quel cadre on les a mis. Dans quel cadre on les a mis?
Justement, vous êtes vérifier. Plutôt quelqu'un qui les cadrait, oui, ou qui laissait une part d'improvisation au jeu, où vous êtes vraiment très attentive à ce qu'ils reproduisent, les gestes que vous leur avez donnés, les intonations dans les textes?
Il n'y a pas de gestes, il y a le texte. Le texte, il y a deux cadres. Le cadre du cinéma, de la focale, voilà, et le cadre du texte. Le texte, on l'a bougé un peu ensemble, mais on a respecté, c'est joué à la lettre. Et la liberté, c'est comment ça bouge à l'intérieur. L'improvisation, c'est comment ils vont interpréter la scène entre eux. Mais voilà, mais moi, il n'y a pas d'improvisation dans le film, non.
Donc, j'ai pu dire que votre envie de passer à la réalisation avait eu lieu après une expérience théâtrale, Annette Lévelanc, en 97. Vous aviez réalisé un duplex entre la maison d'arrêt de la santé, où vous animiez des ateliers de théâtre, et le théâtre de Chaillot. Qu'est-ce qui s'est joué là, à cet endroit-là, pour que ça vous donne envie ensuite de passer plus à la réalisation de cinéma?
C'est la passion que j'ai éprouvée à filmer le visage de ces hommes incarcérés, et pendant des mois, parce que ça a été des mois de préparation, donc de travail, de répétition des textes qu'on avait écrits ensemble, et puis de les filmer, comment les filmer. Et c'est en filmant que j'ai eu envie de filmer. Et comme là, c'était un spectacle vivant, d'une certaine façon, même c'était un duplex, je me suis dit, la prochaine fois, je vais essayer de faire un film. Donc le projet, c'était de faire le film en prison. C'était pas de faire un film dehors. Bon, puis après, l'histoire, vous la connaissez, c'est celle des mains libres du film que j'ai pas pu faire. Donc, je raconte l'histoire d'un film en prison qui n'a pas pu se faire. Voilà.
Vous avez animé de nombreux théâtres, ateliers de théâtre en prison, c'est ce que disait tout à l'heure ouais. Benoît. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction, Brigitte Sy?
Le hasard absolu, c'est-à-dire que un jour quelqu'un m'a dit, on pourrait dire,
c'est une belle chanson. Mais chaque fois qu'on dit cette phrase, qui est quand même une phrase très courante, on a autre chose derrière.
Là, on pourra plus jamais dire quelqu'un m'a dit. Bon, quelqu'un m'a dit qu'on pouvait faire ça. Moi, je savais pas que ça existait de faire des ateliers de théâtre en prison. Et j'ai dit, ah, mais ça, c'est super, c'est pour moi. Ben, je savais pas pourquoi je disais ça. Je savais pas, j'y suis allée, j'ai fait tout de suite des projets, j'ai envoyé ça, j'ai balancé ça dans différentes maisons d'arrêt, il y en a tout de suite deux qui ont dit oui, et puis hop, c'est parti, et j'ai pas arrêté pendant 10 ans. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que moi, je suis pas psychanalyste, c'est pas...
Non, mais je vous demande pas pourquoi.
Bon, après, voilà, on est à l'extrême de tout dans une prison, alors forcément, ça ne peut pas être pas passionnant, c'est forcément passionnant, oui.
Benoît.
Alors chaque soir depuis le début de cette saison, nous demandons à nos invités de nous proposer un son.
Oui.
Et voici ce que vous aviez envie d'écouter.
Tout à fait.
En réalité, vous nous en aviez proposé deux. On a choisi celui-ci pour des questions techniques, de qualité sonore. Vous pouvez nous l'identifier et nous expliquer ce choix?
Oui, c'est Marin Marais, c'est le tombeau de Monsieur Sainte-Colombe. Je ne savais plus bien le titre, hein. C'est ça, de Monsieur Sainte-Colombe. Moi, j'ai découvert ça quand mon fils est né. Alors, ça remonte maintenant. Et j'ai eu un éblouissement absolu. Donc, j'aime beaucoup la musique baroque en général, mais Marin Marais... l'impression qu'on peut arrêter tout quand on écoute ça, et c'est qu'on peut arrêter de vivre, mais on peut aussi vivre. Donc j'adore la viole de gamme. La viole de gamme c'est la voix de d'un être humain, mais c'est pas un être humain, et on sait pas d'où ça sort, et c'est extraordinaire. Voilà.
Le rendez-vous, la chronique.
Brigitte Sy et Pouya Abassian, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique de Xavier Delaporte, qui est rédacteur en chef de Rue 89, le site d'information, qui est partenaire de l'émission, et cette fois-ci, c'est donc David Vincent.
Oui, parce que en ce moment, les journalistes s'intéressant au numérique et aux nouvelles technologies vivent ce qu'on pourrait appeler le syndrome David Vincent. Du nom de ce personnage que vous connaissiez, d'ailleurs, ma grande surprise, Laurent, vous êtes décidément très surprenant.
Il n'y a pas que Hercule Poirot.
D'un feuilleton américain de votre jeunesse, pardon?
Il n'y a pas que Hercule Poirot, je ne regarde pas que Hercule Poirot
à
la télévision. Et Dieu sait que je le regarde.
Ça, vous avez regardé quand vous étiez petit ou déjà presque adolescent, donc, David Vincent, ce personnage de feuilleton américain de la fin des années 60, qui avait la preuve définitive que les extraterrestres avaient débarqué, qu'il ne voulait pas le bien de l'humanité et qui ne récoltait pour ses alertes à la population terrienne que mépris et au mieux indifférence. Ce syndrome David Vincent, nous vivons avec la loi sur le renseignement en discussion depuis lundi à l'Assemblée nationale. Car ce projet de loi sur le renseignement est très problématique, pour ne pas dire liberticide. Il consiste en gros à légaliser des pratiques d'espionnage qui étaient jusqu'ici pratiquées dans l'ombre par les services de renseignement et consistant à écouter les conversations passées sur des téléphones portables grâce à des valises qui aspirent tout ce qui se passe dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, mais aussi à mettre en place des systèmes de récolte massive de données échangées sur les réseaux ou à construire des programmes informatiques capables, en surveillant la manière dont les gens surfent sur Internet, d'identifier des profils suspects. Tout ça en substituant au juge, garant des libertés, une autorité administrative, en mettant de côté la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, qui aurait dû logiquement assurer ce contrôle, mais sans doute est-elle trop soucieuse de liberté, et en rendant compliqué tout recours. Les gens qui s'intéressent au numérique savent que tout cela est très dangereux, que non seulement il y a peu de chances que le gouvernement parvienne à son but de cette manière-là, les spécialistes en informatique interrogés ont fait à ce sujet maintes démonstrations complètement implacables, mais que le système mis en place supposait une surveillance massive de la population, était incompatible avec l'anonymat des données qu'on nous promet, que ces données, pour être utiles, seraient forcément conservées, etc. Bref, cette loi sur le renseignement installe un système non seulement inefficace, mais attentatoire à nos libertés. C'est ce que les journalistes qui s'intéressent aux questions numériques disent depuis des semaines, de toutes les manières possibles, et tout le monde s'en fout. Mais alors, tout le monde s'en fout à un point qui est phénoménal par rapport à ce qui est en jeu. Je vous mets au défi, les uns les autres, autour de cette table, de vous souvenir d'une conversation que vous auriez eue à un dîner, où les convives auraient discuté, se seraient pris le bec, rêvons qu'ils se soient pris le bec, autour de ce projet de loi sur le renseignement. Personne n'en parle. Ça n'est même pas un sujet de conversation. Bien sûr, on n'est pas les seuls à crier. Il y a aussi des associations spécialisées dans les questions numériques, les droits de l'homme, la vie privée, même les avocats ou les juges. Quelques hommes et femmes politiques, pas beaucoup, quelques citoyens. Et nous sommes face, tous nous sommes face à la même question, mais comment faire entrer cette question dans les conversations? Je ne résiste pas à vous raconter à ce sujet une anecdote. Le 1er avril, nous avons fait à rue 89 notre traditionnel poisson d'avril, où nous annoncions en manchette, grande manchette, preuve à l'appui, que les détecteurs de fumée imposés dans tous les logements étaient en fait des mouchards, grâce auxquels le gouvernement pourrait nous écouter. À notre grande surprise, beaucoup de gens, pendant cette journée, ça a duré tout le week-end, ont appelé la rédaction pour nous dire qu'ils avaient retiré leur détecteur, que maintenant qu'ils avaient compris que c'était une blague, ils étaient dégoûtés. Certains, n'arrivant pas à remettre le détecteur à sa place, nous ont même réclamé 15 euros de dommages. C'est-à-dire que nous vivons un moment où une partie des gens est prête à croire que le gouvernement imposerait des détecteurs de fumée pour écouter sa population, mais où on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre partie des gens que le gouvernement est en passe de créer la possibilité d'un système d'écoute massive qui passe par les ordinateurs et les téléphones, ce qui, quand on y réfléchit, est à peine moins dingue que le coût du détecteur de fumée. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. Ce qui est en train d'être mis en place est tellement fou que celui qui le décrit, mais sans même le dénoncer, qui le décrit juste, passe pour un fou. Et voilà, c'est ça le syndrome David Vincent, c'est quand la vérité est folle.
Pouillabassian, peut-être une réaction, non? Vous voyez, en fait, dès le début de la chronique, je me suis dit, hop!
Non, en fait, il y a une histoire avec...
Il va falloir parler dans le micro, en revanche, pour être écouté tout le monde, même si c'est paranoïaque.
C'est bon.
C'est bon.
En fait, il y a une histoire avec ça, avec, justement avec Jaafar, le réalisateur de films de Taxi Terran. Quand il était en prison, il parlait au téléphone, et, évidemment, il écoutait toutes les conversations, et après lui, il était son ami qui il partageait la chambre avec lui, il était au téléphone avec sa femme, et il demandait que Jaafar, il va bien, il disait que oui, il va très bien, il fait le film de sa vie. La nuit, il vient dans la cellule, il vient chercher la caméra, il vient chercher le micro, et il pense que, ok, comment tu fais un film dans la prison? Même eux, ils pensent qu'ils sont en écoute, ils sont en surveillance d'une caméra, c'est la question de numérique, c'est la question qu'on ne sait jamais. Voilà.
Mais ce qui est rigolo, c'est que vous disiez personne n'en parle, mais moi, avant de venir ici, j'étais avec une amie qui venait de m'en parler.
Cette chronique vient d'être anéantie.
Oui, mais ce n'est pas n'importe qui, cette amie a fait de la prison.
Ah, bah voilà.
Alors, évidemment, les gens qui ont connu la prison connaissent la paranoïa, parce que c'est pas de la paranoïa. Il y a effectivement des conversations enregistrées dans les parloirs, et voilà.
Et puis j'ai vu en technique celle qui fait le journal de la culture, vous savez, vous l'avez oublié, mais elle était là tout à l'heure, Zoé Sfès, fait partie de ces gens qui ont cette conversation. Mais c'est la seule conversation qu'elle peut avoir sur ce sujet.
Le rendez-vous.
12 kilos.
Et je 12 kilos.
ظاهرش معلوم خیلی چیز خفن و کار درستی باشه
فیلم مرداری دیگه آقا پناهی
شما کجا؟ تاکسی کجا آقا پناهی؟
این هم راه رو بلده هم زودتر میره بفرمایید
Plateau clandestin avec vous, Pouillabassian, artiste vidéaste, réalisateur, illustrateur. C'est vous qui avez conçu plusieurs versions de l'affiche du dernier film de Jaafar Panahi, Taxi Téhéran, dont on entendait un très bref extrait en ouverture. Le film est sorti hier en salle. Ours d'or, je le rappelle, à la dernière Berlinale. Mais vous avez surtout un rôle à jouer dans la post-production à distance de ces trois derniers films. Ceci n'est pas un film, Rideau fermé et donc Taxi Téhéran. Trois films que Jaafar Panahi a réalisés depuis que le régime iranien lui a interdit de tourner. Le chauffeur de taxi, c'est lui. Lui-même, le réalisateur, il filme à l'intérieur de sa voiture les passagers qu'il mène d'un point à un autre sur les routes de Téhéran, souvent embouteillés, des passagers qui d'ailleurs le reconnaissent. C'est une manière de portraitiser bien sûr la société iranienne et surtout de réaliser un film alors que les autorités iraniennes lui ont interdit de bouger en 2010, d'en faire même de faire des films pendant 20 ans. Alors bien sûr, on pense son temps quand on regarde le film à se demander mais comment il a pu tourner, comment lui, il vous a parlé du projet pour la première fois.
Alors pour la première fois, enfin, la façon qu'il parle, la façon il dit quelque chose, que, mais on va, moi seulement, sa fille qu'elle avait ici, on comprend qu'il est en train de faire quelque chose. Donc, il pose des questions. Une fois qu'il pose des questions sur la caméra, alors je cherche une petite caméra, voilà.
D'accord,
il est en train de faire quelque chose. Alors, on lui a donné des propositions. Et après, d'abord, il était sur GoPro. Et il dit que non, j'aime pas l'image, c'est très déformé, c'est pas ce que je cherche. Alors, on a proposé une autre caméra. C'est une caméra Blackmagic avec une qualité cinématographique trop bien. Ça marche très bien pour son idée. Au final, il a caché trois caméras dans la voiture. Et il a commencé à faire des essais. Ça marchait pas, ça bougeait beaucoup. Du coup, ils ont construit une façon de stabiliser l'image. Et c'est très bien marché. Cette fois, il avait le problème de la lumière. C'était très sombre dans la voiture. Il pouvait pas ajouter la lumière parce que ça attirait l'attention. Et il voulait pas. C'était très stressant. Il voulait pas ajouter une autre chose. Donc, ils ont coupé le
toit.
Voilà, ils ont
pour faire rentrer la lumière.
Faire rentrer la lumière. Et voilà, le tournage commence.
Le film, donc,
vous
le disiez, a été tourné en une quinzaine de jours, tout au plus, dans une voiture, donc sans toit pour laisser passer la lumière du jour. Et donc, vous parliez des caméras, il y en avait trois dans la voiture, trois petites caméras. Et en 2003, à la sortie de Sang et Or, Jafar Panahi disait « Tous mes films fonctionnent autour de la logique d'enfermement ». Mais jusqu'à maintenant, c'était lui ou les acteurs qui se retrouvaient enfermés. Là, on a plutôt l'impression que c'est autour des spectateurs d'être enfermés, d'être prisonniers. On est les seuls à ne jamais sortir de la voiture.
Oui, en fait, on est avec lui, mais lui, il sort parfois de la voiture, mais on reste dans la voiture. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Les deux premiers films, il a fait dans la maison, il a fait dans son appartement. Et c'était dans l'état chaud, c'était plutôt l'autoportrait d'un artiste. Il va dire que alors, ce qui m'est arrivé, c'est terrible, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais la troisième film, déjà, il sort de la maison, il sort sur son chemin en tant que cinéaste. Il fait toujours ses films sur la société d'Iran. Il raconte des problèmes, il raconte le tout sur la société iranienne.
Mais il reste toujours confiné.
Mais cette fois, on est enfermé, mais on est en même temps dans la rue. Et on voit qu'il va bien, il va mieux, il est en paix, même avec les gens qui lui font même mal.
Alors, il s'agit d'une sorte de docu-fiction autobiographique. Enfin, c'est très étrange. Jafar Panahi s'est inspiré de situations vécues qu'il a observées dans les taxis. Il a écrit un scénario qu'il donne à jouer à des acteurs non professionnels, des amis d'amis, des membres de sa famille. Et puis même, par exemple, la seule qui joue son vrai rôle dans la vraie vie, c'est une avocate, c'est Nasrin Sotoudeh, c'est ça?
Sotoudeh.
Elle prend le taxi pour aller voir Ghavani, qui est en prison. C'est la jeune iranienne britannique de 26 ans qui avait été détenue pendant 5 mois pour avoir assisté à un match de volley. On se demande, quand on la voit justement jouer son propre rôle dans ce taxi, quel est le risque qu'elle prend en fait?
Bon, en fait, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle s'en fout, elle prend le risque, et elle a envie de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est très important pour elle. Et quand on parlait avec elle, c'était comment t'as accepté ce rôle? Elle disait que pour moi, c'était une autre façon d'exprimer. C'était pas jouer dans un film. C'était comme un micro pour parler, pour m'exprimer. Et c'était le côté important. C'était ça pour elle. Mais
c'est-à-dire que le film devient presque une tribune pour elle.
Oui, exactement, exactement. Après, c'est très intéressant parce que. Elle était, dernier moment vraiment, Nasrin, elle n'était pas dans le scénario. Avant, dans le scénario, il y avait quelqu'un d'autre, c'était un cinéaste, pour quelques raisons, au final, il ne pouvait pas jouer. Dernier moment, j'ai à faire appel Nasrin, alors je suis en train de faire un film, tu veux jouer? Oui, tout de suite, le lendemain, c'est le tournage.
Alors Nasrin Sotoudeh, elle était prête à prendre ce risque, mais en ce qui concerne les autres acteurs, parce que j'imagine que le dispositif de cette voiture sans toit, avec les caméras, même si les acteurs n'étaient pas connus, ça attirait quand même l'attention dans les rues de Téhéran, sur les routes.
Pas vraiment, en fait c'était caché. C'était bien caché les caméras. Après, ils n'ont pas utilisé un vrai taxi. Parce qu'un vrai taxi, ça attire l'attention. Les gens, ils vont monter. C'est comme ça, un taxi partagé. Mais pour les autres, ce sont des amis. Après, la nièce aussi, c'est vraiment la nièce de Jafar. Elle joue vraiment. Elle est vraie. Elle est comme Nasrin. Elle est exactement comme ça.
Elle joue son propre rôle.
Elle joue son propre rôle, oui. Du coup, les gens prennent le risque parce qu'ils aiment Jafar. Ils aiment comme moi, que je l'aime beaucoup. Et je fais tout pour ces films. J'aime beaucoup aider à participer à ces projets. C'est important.
Vous l'avez rencontré la première fois à quelle occasion, en fait?
Son fils, c'est un de mes meilleurs amis en Iran. Et après, j'ai rencontré sa vie. Et après, Jafar, chez lui, dans une fête. Et on a, voilà.
Encore un mot sur le film. La voiture roule pendant toute la majeure partie du film. D'ailleurs, Jafar Panahi admet qu'il a eu du mal à gérer à la fois sa conduite et en même temps le jeu et la mise en scène, parce qu'il devait tout faire en même temps. Et au niveau du montage, je me demandais, ce mouvement quasi permanent, est-ce que ça a posé problème, Pouya Abassian?
Pour le montage, la façon qu'il tournait, il y avait un problème avec cette caméra, parce que parfois il enregistre pas. Il y a des bugs, parfois, il n'enregistre pas, vous ne savez jamais. Comme c'est un petit prix, il y a toujours des problèmes, il faut essayer, et après...
Quelquefois, ça ne marche pas.
Voilà. D'accord. Donc, il tournait plusieurs fois, et après, il allait dans un autre quartier pour regarder les roches, mais pas pour regarder que, OK, j'ai bien joué, il a bien joué l'acteur ou pas. Juste pour voir qu'il a enregistré ou pas. C'était le soir, dans la maison, le montage, il regardait les roches... Parfois, il avait besoin de répétitions. Par exemple, sur la scène devant l'hôpital, ils ont eu des problèmes.
Avec l'histoire du blessé?
Oui, voilà.
En fait, il y a un accident de voiture, il y a un blessé. Et donc, sa femme prend le taxi de Jafar Panahi pour emmener ce blessé à l'hôpital. Et pendant tout le trajet, c'est assez drôle, le blessé veut absolument dire son testament face à la caméra pour qu'il soit enregistré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, devant l'hôpital, les gens qui travaillent dans l'hôpital, ils ont pensé que c'est un vrai accident et il veut partir. Il veut le laisser là-bas et il veut partir. Donc, ils l'ont arrêté. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Ils ont dit, on répète pour un tournage après. C'est pas un vrai blessé. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Brigitte Sy?
Ça m'inspire que j'ai très envie de voir le film, parce que moi, j'aime tout ce qui a une vertu documentaire très forte. Et que, voilà, je vois bien que c'est ça. C'est le cas de ce film-là et que j'ai très envie de le voir.
Oui, c'est vraiment basé sur la documentaire. Ouais. Tout le temps quand on parlait avec Jafar, il disait que prenez un taxi, allez dans les rues et vous avez beaucoup de sujets, vous avez beaucoup d'idées pour faire un film.
Bien sûr.
Xavier Delaporte?
J'imagine que ces films sont vus en Iran.
Oui.
Par quel moyen? Ils circulent comment?
Sous le manteau.
Exactement.
Ouais, mais comment sous le manteau? Je sais pas, c'est des gens qui passent des DVD,
des clés USB.
Je vois ce que veut dire sous un manteau.
Des clés USB.
Non, mais je
Brigitte Sy est une très bonne actrice. Elle vient de mimer sous le manteau.
C'était vraiment impressionnant. Non, ouais, vraiment impressionnant.
Ah, excusez-moi.
Maintenant, quand vous avez vous dans le film, il y a quelqu'un qui vient chez vous chaque semaine. Il vous apporte des films. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et après, pour ce film de Jafar, c'était seulement son premier film qu'il est sorti en Iran. Il est dans le cinéma, c'est le ballon blanc, le scénario s'est écrit par Abbas Kiarostami. Après son deuxième film, Le Miroir, et après Le Cercle et les autres, ils n'avaient pas droit de sortir dans le cinéma. Voilà.
Est-ce que vous avez eu des retours justement concernant les premiers visionnages de ce film Taxi Téhéran qui a sans doute déjà peut-être circulé sous le manteau?
Non, pas encore. Les films sortent. Parfois il y a des piratages quand on en voit dans les festivals. Parfois il sort de festivals avec timecode. Il est tout de suite sur Internet. Et les gens téléchargent les DVD sortent. Mais après, souvent, c'est après sortir de DVD. C'est avec une bonne qualité, il sort tout de suite. Voilà.
Jafar Panahi n'envisage pas de quitter l'Iran malgré son séjour en prison, malgré les pressions qu'il subit et les peines qu'il encourt, 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction de faire des films. Vous comprenez cette position, vous qui avez quitté l'Iran pour gagner la France? Pouya Abassian?
Justement, je suis sorti d'Iran après cette condamnation. Ouais, on était chaud, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, mais tout de suite, 3 mois après, il a fait un film, il a fait ça, ce n'est pas un film, pour réagir que, OK, je ne peux pas arrêter de faire ce film, c'est pour moi, c'est comme mourir. Pour réagir, il a fait ça, mais je pense que c'était plutôt un geste pour montrer à tous les artistes, après les événements de 2009, le mouvement vert et tout, parce que tous les artistes ont supporté cet événement, c'était plutôt un geste pour montrer qu'on fait tout, on est très fort, et regardez Jafar, il a condamné 6 ans de prison, pourquoi? Parce qu'il était en train de faire un film, mais on ne savait pas que c'était quoi le film, on ne savait pas que c'était contre le régime, on ne savait pas que c'était, il parlait de mouvement vert ou pas. Parce qu'il était en train de faire un film, c'est tout.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Et voici ce que ça donne. Identification de ce son, Pouya Abassian, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, on écoute, c'est la musique dans le film de, dans la ville de Sylvia, réalisé par José Luis Guerra. J'espère que je dis vrai. Alors, le son dans ce film, c'est très important pour moi parce que c'est tout reconstruit. Mais dans le film, il y a un côté fort de documentaire reconstruit. Alors, le film raconte une histoire personnelle de réalisateur qui, après 16 ans, il retourne dans une ville pour chercher une mémoire, pour chercher un visage, mais en sachant qu'il ne va jamais trouver. Donc, ça construit sur rien, mais il commence à reconstruire tout le film avec le son et la musique. Et la musique, dans cette scène, c'est très important parce que le personnage, il n'arrive pas à se concentrer à dessiner, il n'arrive pas à travailler. Mais une fois que la musique commence, il est tranquille, il commence à regarder autrement les gens dans le café et il trouve la personne qu'il cherche.
Émilie Chaudet.
Comment est-ce que vous vous retrouvez avec Jafar Panahi autour du cinéma ? Est-ce que vous avez les mêmes références ? Est-ce que vous vous êtes fait découvrir des films chacun ?
Oui, bah, on fait pas mal d'échanges cinématographiques aujourd'hui. On était en contact quand il parle. C'était la conférence presse du Festival de Cannes. Il m'a envoyé un message. Ah, il y a un film iranien. Tu vois, on est content. Il y a un deuxième film iranien. Ouh, yes. Bah, ouais, on fait toujours cet échange. Voilà. C'est.
Vous êtes vidéaste, vous réalisez des clips, des films d'animation, vous dessinez aussi. Est-ce que votre collaboration avec Jafar Panahi a nourri, en quelque sorte, votre propre travail ? Et de quelle manière ?
Oui, en fait, moi je viens d'art visuel. Je viens vraiment de dessiner, illustrer, films d'animation après. Et cette collaboration avec Jafar, ça me donne envie de faire des films de vues réelles, justement. Et, bah, je viens de tourner un clip, cette fois, c'était la première expérience en vue réelle.
Voilà. Dernière question, Émilie.
Jafar Panahi s'entoure de jeunes collaborateurs. Vous-même, vous avez 32 ans. Vous prenez clairement des risques à travailler avec lui pour ses films. Le dernier cinéaste à avoir travaillé avec lui sur Ceci n'est pas un film a été en prison. Est-ce qu'il vous est possible pour vous, là, de retourner en Iran ?
Bah oui, c'est ça, en fait, la question. On ne sait jamais. Comme vous avez dit, Mojtaba, quand il est rentré, il a pris son passeport. Après, il était en prison. Après, sur les rideaux fermés, il y avait Kambozia Partovi, l'actrice de film Mariam. Quand ils sont entrés, ils ont tout de suite pris leur passeport. Bah, moi, comme je travaille avec Jafar, je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas rentré, je suis venu pour 3 mois avec un visa de 3 mois et ça fait 4 ans. Bah, je ne sais pas. Une fois que je rentre, je vais vous dire.
Merci à nos invités Brigitte Sy et Pouya Abassian, mais L'Astragal et Taxi Téhéran sont au cinéma et donc en salle actuellement. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, ce sera une émission Paroles et Musique avec la chanteuse Imdi Zara, le parolier et écrivain Pierre Grier, puis bien sûr la chronique de Thomas Clair. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Émilie Chaudet, Adrien Nazili et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé-Espèce, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Yanis Djoudad et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Brigitte, si comment on passe un film sous le manteau ? Moi, je vais prendre leçon de cinéma.
Grâce à des poches trouées.
Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, c'est bien.